www.radio-g.fr. Résonance, le lundi à 20h sur Radio G, présenté par Marina Dou.
Bonsoir à toutes et tous. Ce soir, un moment rien que pour vous et avec nous, c'est Résonance, l'élégance musicale, l'art du métissage. Des vibrations qui nous touchent, traversent notre chair, notre être, au-delà de nos différences. Alors soyez prêts pour ce voyage, car c'est avec Sapo Kaya que nous partons ce soir. Un univers en ébullition, où fusion rime avec passion, c'est Sapo Kaya. Des Caraïbes au Brésil, en passant par l'Amérique, la nature est musique, la musique est nature. Des racines et des ailes pour se construire et déconstruire, des racines et des ailes pour s'ancrer et s'emballer. Harley, bonsoir.
Bonsoir.
Jamaillé, bonsoir.
Bonsoir.
Tristan, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans Résonance. Alors, on vous retrouve ce soir pour parler de votre groupe, Sapo Kaya, un ensemble de musique afro-brésilienne, caraïbéenne, aux couleurs jazzy, qui réunit 9 musiciens, vous, Harley Feuillard, Tristan Boulanger, aux percussions et à la composition, Jamaillé Viveros à la trompette, Darius Moglia, Zéphania Lasconi au saxophone, Tyler Filmon à la batterie, Maxime Chevalier au trombone, Simon Voituriez à la basse et César Aouillet à la guitare, au cavanquino. De l'énergie, de la chaleur, une nouvelle vague de fraîcheur, c'est Sapo Kaya, une musique venue d'ici et d'ailleurs. Alors comment est née cette idée de monter un groupe de fusion?
Alors c'est une idée, c'est jamais qui parle. C'est une idée qui traînait depuis pas mal de temps dans ma tête et dans celle de Tristan. On se connaît depuis pas mal d'années et en fait on a eu l'occasion de jouer sur Paris ensemble dans un maracatu, un ensemble de percussions de musique brésilienne, et on y a joué pas mal de temps. Et de fil en aiguille, en fait, on est parti jouer au carnaval au Brésil à Recife, et on a pu jouer en fait avec énormément de gens, et dont des musiciens très très connus brésiliens comme Gerard Azevedo, Bahama, Luiz Vanessa ou d'autres noms. Et on a vécu vraiment une expérience d'un mois incroyable où on a partagé énormément de musique. Et il y avait déjà cette idée en fait de monter un groupe de musique brésilienne, parce que je suis d'origine franco-brésilienne, donc j'ai grandi avec ça. Et en fait, en rentrant de ce voyage, c'était une évidence. On avait eu envie de vraiment, à ce moment-là, ok, on va monter le groupe, parce qu'on avait envie de partager à la base une facette du Brésil que les gens ne connaissaient pas en France, donc qui justement, en différence de juste la bossa nova ou les samba classiques que peuvent connaître les Français, on a voulu présenter une nouvelle facette, donc avec beaucoup de rythmes du nord-est du Brésil, comme le baian, le forró ou d'autres rythmes comme ça qui sont moins écoutés en France, en tout cas.
Qu'est-ce qui vous attire dans ces musiques?
Qu'est-ce qui nous attire dans ces musiques? Moi, j'ai grandi vraiment personnellement avec ces musiques-là, donc ça fait vraiment partie de ma culture à moi, et ça me tenait à cœur de monter un groupe autour de ces musiques-là. Et ensuite, enfin, c'est des musiques qui sont très communicatives, qui sont vraiment, c'est un partage d'énergie, et c'est quelque chose de pour faire la fête aussi. Donc c'est vraiment, comment dire, à jouer, je trouve ça, moi, agréable, je sais pas ce qu'en diront les autres. Et puis, on partage quelque chose avec le public qui finit par apprécier quelque chose qu'il ne connaît pas, et c'est génial.
Moi, personnellement, donc là, c'est Tristan qui parle. Moi, je suis pas du tout d'origine brésilienne, et donc ça a été la première immersion pour moi, ce voyage au Brésil d'il y a 2 ans. La question, si c'était qu'est-ce qui nous inspire dans ces rythmes-là, moi, j'avoue que c'est un truc un peu plus large que je vois. C'est pas tant le rythme en lui-même et la clave pour s'en inspirer musicalement, mais ce qui m'a vraiment choqué dans le bon sens du terme, c'est vraiment tout le rapport qu'il y a entre ces différentes cultures qui dialoguent entre elles là-bas, et finalement de voir que les gens vivent de ça, mais d'une façon tellement différente de nous, notre rapport à l'art ici en France. Enfin, c'est plutôt ça que je trouve très inspirant, et qui découle après sur une pratique musicale qui se reflète dans les rythmes, mais c'est vraiment tout un rapport complètement à l'opposé de nos codifications occidentales. Enfin, c'est plutôt ça, moi, qui m'inspire, je trouve, dans toute cette culture plus largement.
D'accord, parce que la musique brésilienne, c'est un mélange, c'est un métissage, puisqu'on voit là, on a eu la colonisation des Portugais, dans l'histoire
du Rio. Oui, c'est un mélange de... Oui, exactement, c'est ces trois pôles, à la fois les afro-descendants directement issus de l'esclavisation, après il y a eu les... Oui, c'est ça, les colons européens, et puis aussi les cultures indigènes dont on parle un peu moins, mais qui sont toujours aussi présentes, pas toujours aussi présentes, non, évidemment, mais qui sont en tout cas toujours présentes et qui essayent de lutter justement contre une sorte d'oppression qui est toujours présente pour le coup au Brésil. Et donc c'est ce mélange un peu de ces trois cultures. Il y en aurait même d'autres, hein, si on parle d'autres immigrations, je crois, qui ont eu lieu, même je crois d'Inde, ou enfin de pays comme ça, de Japon. Enfin, il y a quand même énormément de cultures qui dialoguent au Brésil, et c'est ça qui est très 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 inspirant, de voir qu'elles cohabitent et qu'elles proposent des mélanges qui artistiquement des fois sont exceptionnels.
Et Hervé, alors moi j'ai cru comprendre que vous veniez des Caraïbes, c'est ça plutôt?
Oui, moi je viens de la Guadeloupe. Et c'est vrai que c'est une musique que je ne connaissais pas du tout à la base. Et en fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jamaï et Tristan sur un autre projet. Et donc, quand ils m'ont proposé d'intégrer le groupe, justement, je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais comme, justement, moi, je joue pas mal de musique, la Caraïbe, la salsa, la musique afro-cubaine. Donc, en fait, ça m'a rapidement plu. Et je me suis rapidement rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose... de vraiment intéressant, surtout qu'il y a des points communs en fait avec pas mal de musique que je pratique et que j'ai déjà entendu, justement parce qu'il y a ces racines communes d'Afrique noire, quoi. Voilà.
On va revenir un peu sur votre parcours musical. Est-ce que vous venez du classique, du jazz, voilà, un enseignement plutôt traditionnel ou au contraire en autodidacte? Comment ça s'est passé pour vous?
Alors moi, Harley, j'ai fait beaucoup de classiques en tant que pianiste. Et en même temps, j'ai pratiqué le groka, qui est la musique traditionnelle en Guadeloupe. Et au bout de beaucoup d'années d'études, j'ai décidé finalement d'aller plus vers le jazz, les musiques improvisées. Donc maintenant, je suis plus jazz, salsa, musique antillaise, et maintenant musique afro-brésilienne. Donc au piano et au percu, en fonction des projets. Voilà.
Moi, jamais, j'ai une grosse formation classique aussi de base au conservatoire. Tout en ayant eu à la maison, j'ai beaucoup joué de musique brésilienne à la maison aussi, avec mon père qui est musicien. On jouait beaucoup quand j'étais plus jeune ensemble, donc j'ai pu découvrir pas mal de répertoires de cette manière-là. Et je m'intéressais toujours à d'autres types de musique, et j'ai toujours aimé travailler classique, mais c'était pas vraiment ce qui m'enchantait le plus. Et donc il y a 2-3 ans maintenant, je me suis reconverti complètement dans le jazz, donc maintenant je fais ça à fond. Et donc jazz et puis musique brésilienne et plein d'autres projets sur lesquels on peut m'appeler, que ce soit afro-caribéenne, africaine, enfin plein de choses. Voilà, enfin je suis ouvert à n'importe quel style de musique et je trouve justement les mélanges toujours très intéressants.
Ouais, moi pareil, classique. J'ai fait pas mal de cours d'écriture, d'arrangement, toujours dans le classique, et je me suis mis au jazz il y a 3-4 ans. Donc c'est à partir de là que je me suis vraiment intéressé aussi à la musique brésilienne à peu près en parallèle. Donc bon, voilà, je crois qu'on vient un peu tous du truc classique, c'est qui est marrant.
Et voilà. Ça aide alors?
Oui et non, dans le sens où c'est sûr que ça peut aider sur certains aspects. On pense tout de suite aux trucs techniques, aux sons, aux aspects propres aux traditions classiques. Mais après, ça peut desservir aussi sur d'autres points. Je trouve qu'on travaille pas du tout de la même façon concernant le rythme, notre rapport au time, au rythme généralement. Enfin, c'est... un truc qu'il faut complètement déconstruire et réapprendre, je trouve, quand on se met au jazz ou à d'autres cultures. Je parle même beaucoup plus largement que la musique brésilienne aussi, mais c'est des aspects qui sont très peu travaillés en classique, ou alors pas forcément toujours de la bonne façon. Donc ça peut aussi desservir sur plein d'aspects, je trouve.
Et l'apprentissage oral aussi, parce que c'est vrai que dans le classique, on a un rapport très proche à la partition. Ouais. Et c'est vrai que dans le jazz, ou en tout cas même surtout dans les musiques traditionnelles, en fait, il y a jamais de partition. Donc en fait... c'est par la répétition qu'on apprend les thèmes, les morceaux, et à l'oreille qu'on apprend les grilles, qu'on apprend à improviser, quoi.
Et même corporellement, du coup, ça va jusque là, parce qu'on est figé avec un média devant les yeux qui est une partition, et on se rend compte que c'est pas forcément toujours ça, la musique, et donc désapprendre ça, ça prend du temps, et j'estime même là aujourd'hui de pas être complètement déconstruit sur tout ça, et j'ai encore beaucoup de barrières qui viendraient potentiellement du classique, là où je vois que d'autres personnes n'en ont pas, parce que justement, elles ne viennent pas de ce milieu-là, et Et c'est ça qui est aussi très enrichissant de voir quand on est au Brésil, c'est de voir que justement ces gens-là dialoguent, enfin complètement en dehors de tout média, et de voir quand même des personnalités complètement libres sur scène. Même dans les apprentissages, on a pris pas mal de cours là-bas. Enfin, ça n'a absolument rien à voir avec l'institutionnalisation ici. C'est assez fou.
Ils font plus confiance à leurs sensations, au final.
Ouais, c'est ça. Il y a
Au
un
ressenti,
côté,
ouais.
ouais, et au corps aussi. Enfin, c'est vraiment tout un truc qui dialogue avec aussi la danse, par exemple. Enfin, c'est l'importance du chant, du rythme, de la danse qui fait vraiment un tout et qui a du sens. Là où nous, on va vraiment séparer tous ces paramètres et voilà.
Et puis il y a un côté aussi où cette oralité finalement, là je vais parler du Brésil parce que c'est ce que je connais le mieux, mais quand on compare l'enseignement en France et au Brésil, en fait il y a cet héritage de la musique classique en France, quel que soit le domaine, c'est-à-dire que tout est très institutionnalisé et très cadré, très très théorique et très d'accord, on va pratiquer, mais c'est toujours comme ça. Et je trouve que la musique se vit pas totalement en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas vraiment, il y a plein de concerts tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais notamment à Paris où c'est une ville qui bouge partout, qui culturellement est très riche. En fait, finalement, on va voir des concerts, mais il n'y a pas vraiment d'événements spontanés comme ça où on va vivre une musique. Donc, on va connaître un répertoire parce qu'on l'entend tous les jours dans la rue. Chose qui peut arriver notamment au Brésil, si on prend l'exemple du carnaval, où en fait les gens vont grandir en fonction de leur région avec des morceaux régionaux qu'ils vont entendre tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui, forcément, même les non-musiciens sont déjà imprégnés de cette culture musicale-là. Là où, en France, il y a cette histoire d'apprendre, donc les gens vont être techniquement très bons, mais après, pour se libérer de ça, et donc, typiquement, bah voilà, pour la danse ou pour d'autres choses, ça va être parfois des longs chemins avant que les musiciens arrivent à se débloquer, même physiquement, parce qu'ils ont justement l'habitude de jouer le truc super bien, super carré, mais sans bouger, sans mettre d'émotions corporelles, en tout cas dedans, parce que ce qu'il faut, c'est être professionnel, entre guillemets, et assurer la partie et ne pas en faire des caisses sur scène, par exemple. Il y a beaucoup de règles comme
Et
ça.
même aussi, je trouverais intéressant de se poser la question même vis-à-vis du public, c'est-à-dire que même, enfin, je pense que vous allez partager ça aussi, mais il y a quand même quelque chose de très analytique dans la façon dont on va écouter les concerts la plupart du temps. Moi, je sais que j'ai été énormément là-dedans. Toujours après le concert, alors t'en as pensé quoi? Voilà, puis on va essayer de faire une sorte d'analyse un peu spontanée du concert. Alors oui, ça c'était bien, mais ça c'était pas bien, ça c'est machin. Donc en fait, on se rend pas compte que ça fiche complètement notre écoute et que c'est difficile de lâcher prise sur ça et juste profiter d'un concert, d'être vraiment dans l'émotion, dans le côté purement sensible, et du coup d'avoir toujours ce réflexe de suranalyser tout ce qui se passe. Ça, c'est un truc vraiment très propre à la culture française, je trouve, et c'est quelque chose qui a moins là-bas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un concert où finalement il y a des couacs, il y a des pains, il y a des trucs. Ben en fait, si le concert a été touchant à partager une émotion, c'est finalement ça qu'on va vraiment retenir, et on va pas revenir sur tous ces détails qui pourtant sont. Enfin, on a l'impression que c'est tout aussi important que le reste en France, alors que bah, pas forcément. Après, on fait des grosses généralités France-Brésil, mais c'est plutôt voilà des cas personnels évidemment à chaque fois, mais voilà.
Oui, effectivement, la critique musicale peut être parfois.
Ouais, un peu à outrance quoi. C'est pas en tout
C'est
cas ça
ça.
nous coupe de toute une autre partie du concert qui est tout aussi importante, voire beaucoup plus importante finalement quoi.
Oui, que le ressenti, quoi, tout simplement. Est-ce qu'on a passé un bon
Exactement.
moment, voilà.
Ouais, c'est ça. Tout à fait.
Alors, vous composez, mais aussi vous reprenez des standards de la musique brésilienne. Qu'est-ce qui vous inspire, en fait, dans votre composition? Qu'est-ce qui vous influence?
Alors, bah du coup, ça reflète un peu mon parcours, c'est-à-dire que le but c'est pas non plus d'écrire de la musique purement traditionnelle brésilienne, parce que bah je suis absolument pas capable ni légitime. Donc c'est plutôt essayer de proposer une sorte de fusion, de mélange entre bah des choses que je connais mieux parce que c'est aussi mon parcours. Donc il y a des choses assez arrangées du coup qui reflètent un peu mes études, voilà, en classique, en jazz, les concerts que j'ai pu voir. Certains rythmes inspirés directement de tradition brésilienne, vraiment de façon très large, donc à la fois des rites du candomblé, qui est la religion autre que le catholicisme là-bas, qui vit avec, qui une religion afrodescendante qui propose énormément de variétés dans les percussions, dans les rythmes. Pas mal de rythmes inspirés aussi de tradition populaire, pas mal de la région du Nord-Est, donc comme l'a dit Jamaé, Baião Forró, Xote, enfin plein de rythmes comme ça, de rythmes qui sont présents dans le Nord-Est. On s'inspire aussi un peu du samba, forcément de Rio, et puis aussi de toutes les, alors les cultures indigènes, c'est très très large, mais voilà, essayer de partager comme ça des couleurs qui sont présentes dans les arrangements, mais voilà, qui restent au titre d'hommage et d'influence, je trouve.
D'accord. Et est-ce que vous créez ensemble, ou il y a une personne dans le groupe, par exemple Tristan, qui se met à la compo et puis les autres du coup suivent?
Bah, c'est majoritairement Tristan qui soit compose des morceaux, soit fait des arrangements.
D'accord.
Sur le premier EP qu'on avait fait, il y avait une co-composition entre Tristan et Jamaillé. Mais c'est vrai que c'est lui qui fait 95%, voire 99% de ce travail, qui est énorme. Et par exemple, quand on écoute l'album là qui vient de sortir il y a quelques jours, en fait, c'est une suite de 12 morceaux. Et en fait, c'est à chaque fois par 3 morceaux. C'est-à-dire que ça concerne les 4 éléments de la nature. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, les 3 morceaux d'un élément, en fait, se tuilent super bien par rapport à l'écriture, par rapport aux ambiances. Et bien joué.
C'est-à-dire, il y a quand même un travail de co-construction qui se fait pas mal en répète. Là, on est en résidence justement pour le concert du 9 décembre New Morning. Et donc, il y a quand même aussi un truc où moi, je n'écris pas tout seul à côté en me disant « Ok, c'est ça que je veux ». Enfin, c'est aussi quelque chose qui m'est rendu en répétition. Et du coup, je me dis « Ah bah oui, ça marche, ça plaît moins ». Enfin voilà, et donc je m'adapte évidemment avec le travail qu'on fait en répétition et en concert. Et donc, je m'inspire énormément de ça aussi.
Et est-ce que vous laissez une place à l'improvisation ?
Oui, c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait de la musique afro-brésilienne, mais finalement si on devait mettre notre groupe dans une catégorie, ce serait, enfin il y a ces j'aime pas trop toutes ces catégorisations, mais il y a la grosse catégorisation musique du monde, il y a la catégorie jazz, il y a la catégorie musique brésilienne, il y a plein de choses comme ça, et nous finalement on est plutôt dans une branche du jazz, parce que ce soit dans les arrangements ou justement dans la place de l'improvisation, ça occupe une grande place dans les concerts. C'est-à-dire qu'on a nos thèmes, et puis on joue le thème, on improvise, on joue le thème, soit justement on arrange pour faire en sorte que la forme soit différente et moins classique, on va dire. Mais l'improvisation a quand même une part très importante dans nos concerts et dans le travail de chacun aussi. Tout le monde est dans le monde du jazz, et donc c'est aussi ce qui se passe en concert. Mais c'est pas du jazz pur et dur, parce que c'est ce mélange de jazz finalement afro-brésilien, quoi, j'ai envie de dire.
Alors Sapocaia, c'est le nom de votre groupe, un joli nom à consonance un peu, je trouve, indonésienne. Qu'est-ce qui signifie?
Le Sapocaia, c'est un arbre brésilien. Et c'est un arbre brésilien qui produit des fruits qui sont en fait des petites calebasses qui servent aussi de percussion, d'agogo notamment. Et sur le premier EP, on était en train de réfléchir justement au nom du groupe, tout en parlant de musique. Et finalement, on s'est mis d'accord en cherchant plein de choses sur Sapocaia, parce qu'on trouvait que le nom déjà sonnait bien. C'était effectivement un joli nom. Et puis ça avait une belle signification aussi vis-à-vis de, voilà, tous les problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui de avec la déforestation, avec l'Amazonie. On s'est dit, tiens, Sapocaia, l'arbre. Et puis, il y a cette histoire de fruits, de percussions, donc une musique très percussive aussi qui rentre en compte. Et ensuite, dans le premier EP, tous les noms des morceaux du premier EP sont des noms d'arbres. Donc, en fait, on est parti de ça. On s'appelle Sapocaia. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme nom de morceau? Ah, et si pour le premier album, on choisissait, enfin, pour le premier EP, on choisissait que des noms d'arbres, et donc on a choisi nos compositions aussi par rapport au nom du groupe.
On va revenir sur votre tout dernier album, Elemento, sorti il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
J'allais dire l'aboutissement quand même d'un projet qui s'est lancé depuis 2 ans, et à peu près un an et demi, 2 ans. Donc c'est quand même là un gros morceau qu'on sort, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec le premier EP qu'on a sorti. Et enfin, franchement, moi, quand je le vois, même le disque là en physique, enfin, à chaque fois, je pense au premier répète, à toute l'évolution individuelle des gens qui sont, enfin, vraiment intéressés à cette culture-là, qui ont essayé de la mettre en valeur dans ces musiques. Et enfin, voilà, je pense à vraiment tout le travail qui a été fait dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui représente une évolution et qui est arrivé, voilà, jusqu'à ce stade-là. Et c'est ce qu'on défend aujourd'hui. Voilà, moi je vois plutôt une évolution de quelque chose plutôt qu'un produit final.
Moi si je devais dire ce que représente ce disque aujourd'hui, c'est, je pense que le premier EP finalement Il était très expérimental. C'était, en fait, on l'a enregistré très vite après s'être rencontrés. Et donc, si on devait comparer les deux, ce qui n'aurait pas trop de sens, mais si on devait comparer les deux, en fait, le premier EP, c'est vraiment une arrivée dans ce groupe. Et le deuxième, c'est un peu la personnalité de chacun qui vient se mettre dans chaque musique, puisqu'on se connaît mieux. Donc, même au niveau des rythmes et de l'utilisation des rythmes et des sons, en fait, il y a chacun qui. Il y a la patte un peu de chacun, puisque Tristan, comme il dit, la composition, c'est lui qui l'a fait, mais il prend en compte, en fait, chacun les concerts, les répétitions en composant. Et donc, forcément, après 6 mois de répétition ou après 1 an et demi de répétition, la composition n'est pas perçue de la même manière et il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui correspondent vraiment bien aux musiciens, je trouve, qui les jouent.
Oui, puis il y a tellement de place laissée à l'improvisation aussi, donc chacun peut à peu près s'exprimer là-dedans. On a aussi énormément d'invités sur cet album, je dirais une vingtaine à peu près. Donc, ouais, je sais pas si on compte les cordes, les souhaits, ça doit faire une vingtaine. Cool. Donc, c'est aussi un plus gros morceau, entre guillemets. Mais...
C'est vrai qu'on a beaucoup d'invités et c'est aussi ça qui nous tenait à cœur quand on a monté le projet. Il y a eu cette envie de créer un pont entre la France et le Brésil. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à faire sur cet album parce qu'on a eu des invités brésiliens notamment. On a eu Carlos Malta, un saxophoniste, flûtiste, multi-instrumentiste qui a joué avec Hermeto Pascual pendant une douzaine d'années. Bernardo Guiar, un percussionniste vraiment excellent qui joue avec Carlos aussi.
Thaïs Mota aussi, une chanteuse exceptionnelle qu'on a rencontrée à Rio là-bas. Là, et puis Frédéric Oliodoro aussi, un super bassiste.
Frédéric Oliodoro, super bassiste. Matou Miranda aussi, excellent chanteur. Et puis après, plein d'amis à nous, ici français, qui ont participé, qui ont ajouté leurs pattes à ces sons. Et donc c'est vraiment un projet beaucoup plus gros, qui a demandé beaucoup plus de travail que le premier EP. Ça a été vraiment une longue année, une longue implication là-dedans. Et c'est, voilà, là, le projet est sorti, donc on est vraiment vraiment heureux de ça et c'est pour ça que je dis que ça a pas de sens de le comparer avec le premier EP. C'est que c'est vraiment quelque chose de différent en termes de comment ça a été conçu et avec qui ça a été enregistré et voilà.
Alors on retrouve toujours cette connexion à la nature avec cet album. Ça vous tient particulièrement à cœur ce sujet?
Oui, alors après c'est vrai que ça peut paraître un peu banal cette comparaison avec la nature, mais c'est quand même une source d'inspiration tellement énorme. Et puis c'est surtout de voir aussi de questionner notre rapport à la nature en ayant grandi en France et le rapport à la nature aussi que certaines autres personnes à l'autre bout du monde entretiennent avec, et que finalement c'est dans la musique que peuvent se rejoindre des fois certaines thématiques. Donc je sais pas, je trouvais ça intéressant quand même de faire un album autour de ça. Donc c'est pour ça qu'en fait on a fait 4 parties. Et que dans chaque partie, donc, qui représente les 4 éléments, on essaie de faire des sortes de gradations. Donc, pour l'eau, par exemple, ça commence avec la pluie. Après, c'est l'averse. Après, c'est l'inondation. Pareil pour le feu, c'est la braise, la flamme, l'incendie. Donc, c'est quand même traiter cette nature un peu dans tous ses aspects et comment on matérialise ça musicalement. Donc, voilà, en fait, ça a été comme une base qui m'a permis après de trouver d'autres idées en essayant de rentrer dans cette DA. Donc, ouais, ça a été assez inspirant quand même de faire ça. Pour moi, en tout cas, pour la composition.
Très bien, on va s'écouter ensemble un extrait de Brisa.
Brisa do mar, sem direção, rastro de areia e sal. Te procurei, nenhum sinal. Seu coração foi navegar. Eu nasci, eu cresci, eu amei, chorei na beira do mar. Me lancei, me perdi, me cortei, naufraguei lá no alto mar. Quando que surgi da solidão, sem navio e sem cais, quase me entreguei ao Leviatã, na ilusão do seu olhar. Desatinei num turbilhão, sumi num vento. fim. Vento cessou, vim desaguar no arrebol. Vi surgir um bom tempo, um sorriso, um caminho pra ser feliz. Descobri que o tormento, o castigo foi obra da lua Cris.
Une chanson très suave, avec un petit air de bossa et ses nappes de violon et ses harmonies jazz. Qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Alors c'est une chanson qui est vraiment assez poétique, donc ça a été difficile à traduire d'ailleurs parce que c'est pas mal d'images en portugais, donc c'est vraiment autour d'une... J'aurais du mal à le traduire exactement. C'est plutôt une sorte de voyage autour de souvenirs qui sont voilà, autour de la brise, du vent, donc brisa c'est évidemment la brise. D'ailleurs c'est des rythmiques plutôt inspirées du nord-est, donc c'est vrai que ça ressemble à de la bossa, mais c'est plutôt une rythmique qui se rapproche d'un baian, qui est une des rythmiques traditionnelles du nord-est du Brésil. Voilà.
D'accord.
Et donc pour le sens des paroles, oui, c'est plutôt, je ne sais pas exactement comment dire ça, c'est une sorte de voyage qui parle aussi d'une relation amoureuse, donc si je dois le traduire, c'est sans direction, enfin brise de mer, ça ne veut pas forcément dire grand chose en français, sans direction, enfin je ne sais pas si tu veux mieux traduire, jamais.
Ouais, en fait... C'est vraiment cette histoire de souvenirs et de comment dire,
c'est difficile.
Ouais,
oui, ça, en fait, bon, ça parle un peu du passé, c'est ça.
Ouais, c'est plutôt ça,
nostalgique,
avec des images hyper bien tournées. C'est voilà, c'est ça, c'est des métaphores, pas mal de trucs.
En fait, c'est y a un côté mélancolique et en même temps à la fin ça se résout. Parce que justement, il voit surgir un sourire. Il dit un chemin pour être heureux, alors que le début commence avec je suis né, j'ai grandi, j'ai aimé, mais j'ai aussi pleuré au bord de la mer. Et donc il y a cette avancée dans le morceau, quoi, qui commence un peu mélancolique et qui finit dans la joie.
Ouais. Puis il y a une introspection aussi pas mal avec la solitude. Enfin, il y a plein de thématiques abordées. Toujours avec des belles images. Donc, des paroles par Madaf Bechara, d'ailleurs, qui est un super artiste brésilien avec qui j'ai eu la chance de pouvoir collaborer, justement, où je lui ai proposé des mélodies, il a pu mettre des paroles dessus. Donc, ça a été un immense plaisir de travailler avec lui. Donc, voilà.
Une chanson très poétique, en tout cas.
C'est ça.
Alors, pour finir, comme vous savez, l'émission s'appelle Résonance. Qu'est-ce que ça vous évoque?
Ben pour moi, la résonance, ça peut être, par exemple, au niveau des percussions, comme Tristan et moi sommes tous les deux percussionnistes, par rapport au pot, par rapport au timbre. C'est, par exemple, en gros, dans le groupe, on est trois, entre guillemets, à jouer des percussions, c'est-à-dire qu'il y a Taylor, qui a la batterie, plus Tristan et moi. Et par exemple, je pourrais dire qu'il y a une résonance entre tous les trois, où, en fait, au fur et à mesure, à force de jouer ensemble, on a trouvé un bon équilibre sur les sons, sur l'interaction, sur la façon, parce que comme disait Tristan tout à l'heure, en dehors de ce qui est écrit, en fait, il y a aussi le jeu en direct. Comment on va, par exemple, s'il y en a un qui va se permettre de faire des mises en place, ou alors même de sortir un peu du cadre initialement prévu, mais comment on va interagir avec lui. Donc c'est ça que je dirais par rapport à Résonance. Et en plus, comme c'est vraiment une musique qui est basée autour de la percussion, voilà.
Ouais.
D'accord.
C'est peut-être plutôt un truc de mettre en, enfin, rendre le son, je sais pas trop comment dire, la résonance. Donc c'est un truc qui peut se matérialiser aussi dans, voilà, on rend cette musique quelque part et on la partage. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut, ça peut m'inspirer résonance.
Et puis c'est aussi quelque chose qui peut, quand elle est partagée et qu'elle est reçue par l'auditeur, résonner en lui et réveiller parfois des choses que la personne connaît ou même ne connaît pas. Et je trouve que la musique peut réveiller des émotions vraiment profondes et cachées. Parfois, on comprend pas pourquoi une musique va nous toucher alors qu'on n'est pas forcément proche de cette musique ou de ce pays. Mais ça fait résonner quelque chose en nous, je trouve. Donc, c'est un peu tout musicalement.
Ouais.
C'est la magie de la musique, le pouvoir de la musique. Eh bien, merci Sapo Kaya d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous retrouve sur toutes les plateformes avec votre nouvel album Elementos et en concert, le combien?
Le 9 décembre au New Morning. Et l'année prochaine, le prochain concert sera le 21 janvier.